Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'un livre jeunesse et d'une série de science-fiction. Vous retrouverez le journal des médias et les audiences télé d'hier soir avec Louise Bernard dans moins d'une minute. Puis en deuxième heure, le portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de notre invité culture, signé Lisa-Marie Marquez. Et pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray et ses voix. Mais on n'y est pas encore. Ce matin, notre invité média, c'est le journaliste d'investigation et réalisateur Benoît Bringer pour un documentaire d'Arte. Caviar Connexion, pas un grand rapport avec la gastronomie, mais plutôt la manière dont certaines dictatures déguisées en démocratie, comme l'Azerbaïdjan, parviennent à corrompre les institutions européennes à coups de millions. Puis notre info média du jour, on va s'intéresser au métier de journaliste. Il était à la mode, désormais il n'attire plus. Pire, il fait fuir. En 2020, 892 journalistes ont décidé de quitter la presse et de changer d'orientation. Pour quelles raisons ? Réponse avec le sociologue Jean-Marie Charon, qui consacre un livre à ce sujet. Enfin, le réalisateur et cinéaste Marc Duguin pour son film Eugénie Grandet, une adaptation très libre du chef-d'œuvre de Balzac dont il a changé la fin. Il nous dira pourquoi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Qui remet bien sa bonnette au mais sommaire oui. Du journal des médias, Louise.
L'avenir de The Artist, Facebook qui stoppe un projet, TikTok qui cartonne, une passionnante série documentaire et puis on finira par fêter un anniversaire.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé L'amour est dans le pré, leader encore une fois cette semaine, 4 140 000 téléspectateurs, 18,5% de part d'audience. L'amour est dans le pré qui augmente donc encore en nombre de téléspectateurs. Chaque semaine ça augmente et il faut dire que sur les autres chaînes, sur TF1 et France 2, ça baisse. Les deux chaînes proposaient des séries. TF1 est deuxième avec Une affaire française, série adaptée de l'affaire du petit Grégory. En baisse donc, qui perd près d'1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. 3 100 000 téléspectateurs hier soir devant le premier épisode. 13,9% de part d'audience. Et puis troisième donc France 2 avec la suite de sa mini-série L'absence. 2 millions, je vais y arriver. Je l'avais bien dit au
l'absente.
Début. L'absente. C'est facile pourtant. Ouais. 2 millions, mais j'ai une petite absence. Voilà. 2 650 000 téléspectateurs, 11,8% devant le premier épisode en baisse, donc là aussi.
Culture Média.
À la une de votre journal des médias, comme vous l'aviez pressenti, Louise, la sentence est tombée. The Artist ne sera plus programmé le samedi soir sur France 2.
Oui, fini le samedi et fini le prime time pour l'émission de Nagui. Elle sera désormais le vendredi soir, en deuxième partie de soirée à 22h40, décision annoncée hier par France 2, après une troisième semaine d'audience catastrophique, moins de 900 000 téléspectateurs samedi soir. L'émission reste en direct et les votes gratuits pendant trois semaines encore, comme c'était prévu. Cette case du vendredi soir est moins exposée, hein, elle permettra à l'émission d'être diffusée juste après la série César Wagner, qui réalise souvent des bonnes audiences. Et puis surtout, ça permet à l'émission d'arrêter de se retrouver face à The Voice. Dans son communiqué, France 2 a tenu à saluer l'originalité et la qualité de The Artist.
Et évidemment, vous donnerez les audiences lundi matin pour savoir si la nouvelle case de programmation de The Artist lui convient mieux.
Évidemment.
L'actualité des médias, c'est également celle des réseaux sociaux. Et Facebook vient d'annoncer d'avoir mis en pause son projet d'Instagram pour enfants.
Oui, pas de version pour les moins de 13 ans, du moins pour l'instant. Le réseau social préfère se laisser du temps pour travailler avec les parents, les experts, les décideurs politiques pour démontrer la valeur et la nécessité de ce produit, d'après le responsable d'Instagram, Adam Mosseri. Du temps donc pour répondre aux inquiétudes et aux critiques très vives dès l'annonce du projet. Cette annonce, c'était au printemps dernier. Alors pourquoi décider de stopper maintenant ? Ben, le moment n'est pas anodin. En fait, le groupe va être auditionné jeudi au Sénat, aux États-Unis, suite à l'ouverture d'une enquête parlementaire il y a deux semaines. Le Wall Street Journal révélait l'existence d'une étude interne à Facebook. Je vous en avais parlé. Voilà, cette étude montrait l'impact négatif d'Instagram sur le moral des adolescents. 1 sur 5 affirme qu'Instagram nuit à son estime de soi et les plus concernés semblent être les jeunes femmes. Facebook va donc devoir s'expliquer devant le sénateur. Et le groupe ne renonce pas pour autant à son projet d'Instagram Kids, car il plaide l'intérêt justement d'avoir un espace plus sécurisé pour les enfants, différent de la version adulte. Et en attendant, le groupe entend développer des outils pour aider les parents à contrôler davantage l'utilisation d'Instagram pour les jeunes de plus de 13 ans, parce que c'est l'âge minimum pour s'inscrire sur le réseau social, en théorie.
Réseaux sociaux toujours, TikTok dépasse le milliard d'utilisateurs actifs dans le monde.
Oui, c'est-à-dire des utilisateurs qui se connectent au moins une fois par mois au réseau social, plus 45% en un an. Atteindre le milliard en 4 ans d'existence seulement, jolie performance. L'application peut notamment dire merci au confinement, hein, qui ont largement contribué à sa croissance. Alors, où utilise-t-on le plus TikTok ? En Europe, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et au Brésil. Ce sont les plus gros marchés. L'application a quand même encore un peu de chemin à faire pour tenter de rattraper YouTube qu'elle aimerait concurrencer. YouTube et ses 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels en 2020. À noter quand même que tous ces chiffres sont communiqués uniquement par les plateformes, nous on ne peut pas les vérifier.
On quitte YouTube pour la télévision traditionnelle. LCP, la chaîne parlementaire, propose une ambitieuse série documentaire toute cette semaine.
Baptisée V13, comme Vendredi 13, celui de novembre 2015, celui des attentats de Saint-Denis et de Paris. LCP diffuse un doc par soir, le premier c'était hier, mais chacun peut vraiment se regarder indépendamment les uns des autres. 5 films d'un peu moins d'une heure pour revenir sur l'enquête colossale de ces attentats du 13 novembre, enquête qui est au cœur du procès, hein, qui se tient en ce moment même. La série doc commence même avant les attentats, début 2015, et s'étend jusqu'aux premiers instants du procès, il y a quelques jours. 2 ans de travail pour les journalistes, des témoignages de politiques, de victimes aussi, et puis une très grande réussite, celle de faire parler de très nombreux juges et enquêteurs, certains pour la première fois. Écoutez Théo Ivanez, il est l'un des co-réalisateurs.
On a eu du travail d'explication pour les convaincre, mais à la fois on a rencontré chez eux une volonté d'expliquer ce qu'est leur métier. Ils ont conscience que la justice peut parfois être méconnue, parfois être aussi comme une grande muette. Donc, en tout cas, du côté des organisateurs de ce procès, on est arrivé très en amont et aussi, on avait face à nous, eux avaient une volonté de pouvoir un peu plus communiquer que d'habitude sur ce procès. Petit à petit, aussi, c'est un petit monde donc qui se parle et notre démarche a été peu à peu validée.
Et les réalisateurs ont voulu faire découvrir les hommes et femmes derrière l'enquête, l'humain. Hein. Ces hommes et femmes, eux aussi touchés, mais qui se sont tout de suite mis au service de l'enquête.
On se détache de cette idée du juge froid ou impersonnel, et c'est avant tout des hommes et des femmes qui ont été confrontés à quelque chose que peu d'entre nous pourraient encaisser. Moi, je retiens vraiment l'émotion des juges d'instruction et leur émotion au moment des réunions avec les parties civiles. Et on sentait chez eux une émotion à laquelle ils n'étaient pas préparés, de se rendre compte des limites de leur travail et de tout ce qu'ils pouvaient apporter ne suffirait pas. Et je pense que c'est quelque chose qui les a marqués. Et puis aussi, ces hommes et ces femmes qui sont au quotidien de la lutte antiterroriste. À chaque attentat, il y a cette crainte que ça soit quelqu'un qui s'est déjà pu passer dans leur bureau ou quelque chose qu'ils aient loupé.
Formidable série documentaire de Théo Ivanez qui est co-réalisateur avec Vincent Nouzi. V13 s'est diffusé tous les soirs à 20h30 sur LCP. Chaque documentaire est suivi d'un débat présenté par Jean-Pierre Gratien.
Et puis un anniversaire également dans le journal, vous l'aviez dit, celui du magazine Vogue Paris qui fête ses 100 ans.
Oui, 100 ans de cette version française du magazine de mode américain Vogue. Vogue Paris, c'est la seule version dans le monde à porter le nom de la ville accolé à la marque. Le magazine publie pour l'occasion ses plus belles archives dans un album, hein, 420 pages, une plongée dans l'histoire du magazine avec les photographies des plus grands. Helmut Newton. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Helmut Newton, Robert Doisneau, Peter Lindbergh, Guy Bourdin, et puis avec les top modèles devenus stars aussi grâce à Vogue. Et puis plus étonnant, un retour sur les prestigieux contributeurs du journal, Françoise Sagan, Simone de Beauvoir, Patrick Modiano. Entre autres, l'album est en kiosque aujourd'hui.
Et je l'ai vu, il est absolument magnifique avec des photos qui passeraient plus maintenant si on devait les sortir. Mathieu Noël et Stéphane Bern, j'ajoute cette précision, vont consacrer leur émission Historiquement Vôtre, un numéro spécial consacré aux 100 ans du Vogue. Ça sera le 8 octobre prochain. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média, inscription sur europe1.fr et c'est gratuit. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, on va parler du documentaire Caviar Connexion avec son réalisateur Benoît Bringer. Enquête en 2 parties diffusée ce soir sur Arte. Aucun rapport avec les blinis, mais plutôt avec la corruption. Vous allez tout comprendre. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Benoît Bringer.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste d'investigation, réalisateur. Vous êtes notamment l'un des journalistes qui avait mené en France l'enquête sur les Panama Papers, récompensé par le prix Pulitzer en 2017. C'est pas rien. Et votre actualité, c'est un documentaire Caviar Connection, doc en deux parties, le pouvoir de l'argent puis la machine à corrompre. C'est ce soir sur Arte à partir de 21h. On peut déjà voir ces docs sur arte.tv. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la Caviar Connection ? Il est davantage question d'argent, de gros billets, de gros virements que de caviar à proprement parler.
Oui, tout à fait. Même si le caviar était un peu à l'origine de cette corruption, puisqu'on est dans des pays qui sont sur le pourtour de la mer Caspienne. On est la mer Caspienne qui est un producteur. En tout cas, il y a beaucoup d'esturgeons et on produit beaucoup de caviar dans ces pays-là. Et c'est des pays où on aime le luxe. C'est des pays qui sont parfois un peu kitsch. On peut penser à Borat aussi, ce genre d'environnement. Et donc, on utilisait le caviar pour accueillir des invités à l'époque, des invités étrangers, des chefs d'État, etc. Donc c'est la base. Et ensuite, ça s'est transformé. C'est qu'on n'a pas seulement donné des boîtes de caviar, on a donné des billets, des mallettes de cash pour corrompre des hommes politiques étrangers, pour blanchir l'image de ces dictateurs.
Alors justement, cette image, au début, elle semble cool. On voit Lady Gaga en concert, Jennifer Lopez qui chante « Bon anniversaire, président !» pour l'anniversaire d'un président pas vraiment élu démocratiquement. Elle aurait été payée 1 million de dollars pour 3 chansons. Il y a aussi le concours de l'Eurovision ou le Grand Prix de Formule 1 qui se déroule à Bakou. Mais c'est évidemment plus grave si c'est une enquête comme ça. C'est pas juste ces images d'Épinal sur lesquelles vous focalisez. Vous montrez des pays d'ex-républiques soviétiques comme le Turkménistan, mais ça se passe surtout en Azerbaïdjan. Et c'est également ce qui m'a passionné, c'est également un sujet média. Tout part de la mort d'un journaliste, il s'appelle Elmar Hussainov. Il est tué de 5 balles dans la bouche. Et il y a une journaliste qui est là, Khadija Ismailova, qui dit que c'est sa mort qui déclenche sa vocation. Est-ce que vous pouvez présenter Khadija Ismailova ?
Khadija Ismailova, c'est l'une de ces journalistes qui vraiment me donne envie, moi, de continuer ce métier. Ce sont des gens qui sont admirables parce qu'ils sont dans des pays où c'est vraiment difficile d'exercer ce métier-là. Et qui se battent tous les jours, qui font des sacrifices. Elle a sacrifié sa famille pour faire connaître la vérité sur le régime en place en Azerbaïdjan. Elle vit à Bakou et donc elle a consacré sa vie à révéler la corruption du régime au plus haut niveau. Sauf que dans ces pays-là, révéler la corruption, ça peut vous coûter la vie.
Alors on ne l'a pas tuée, mais quand même pour la faire chanter, elle reçoit un jour une enveloppe avec des photos d'elle prises dans sa chambre, avec son petit ami, dans des situations intimes. Elle repère l'angle de la caméra, elle voit où la photo a été prise, elle suit les fils, elle se rend compte qu'il y avait également chez elle une caméra dans son salon, y compris dans ses toilettes. Et on lui dit, si tu continues, on va révéler tout ça. Elle est totalement dévastée, et là, elle a une réponse qu'on n'attendrait pas.
Oui, ça s'appelle un compromat. Hein. C'est dans les anciens pays d'ex-URSS et en Russie, on utilise ce type de méthode. Et ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a continué. Elle a dit, il n'est pas question que je m'arrête, j'arrête mes révélations parce qu'on me menace.
Elle a fait une conférence de presse pour rendre public le fait qu'il y ait des caméras dans ses toilettes.
Exactement. Elle a mis un post sur Facebook qui marche beaucoup dans ces pays-là et qui sont très suivis pour dire, voilà, on ne m'arrêtera pas, on ne me fera pas chanter et je dirai la vérité quoi qu'il en coûte. Ça lui a coûté beaucoup quand même. Hein. Ça a été terrible pour elle, mais elle a continué.
Et 17 mois de prison.
Et 17 mois de prison qui sont arrivés un peu plus tard parce qu'elle a continué, parce que les autorités, en tout cas, voilà, ceux qui voulaient la faire taire, n'ont pas réussi.
Là, on parle de l'Azerbaïdjan, c'est une enquête en deux parties. La première partie, c'est le pouvoir de l'argent, on voit comment ça se passe sur place avec toutes les difficultés que vous venez de dire. Puis, la seconde partie, et celle qui pour nous est la plus intéressante, elle est titrée « La machine à corrompre » car vous en montrez les rouages. Par exemple, au sujet des exactions du régime d'Azerbaïdjan, un journaliste a réussi à fuir en Suisse en se déguisant, un autre a été tué, on pensait une vengeance. Officiellement, ça ressemble en tout point à un meurtre politique. Pourquoi on en parle ? Parce qu'au même moment, l'Azerbaïdjan jouissait d'une très bonne image en Occident. Vous montrez des images du président Aliyev en compagnie d'Angela Merkel ou dans la cour de l'Élysée avec une très 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 longue poignée de main avec le président Hollande. Et pourtant, ces images font suite au rapport Stresser. C'est quoi le rapport Stresser ?
Alors le rapport Stresser, c'est un rapport qui a été présenté au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, pour faire simple, c'est l'organe qui va dire en Europe élargie avec les pays de l'Est, qui va vérifier que les droits de l'homme sont respectés. Et donc c'est un organe très important parce que c'est notamment cet organe dont dépend la Cour européenne de justice.
Mmh. Ce qui est très intéressant à dire, c'est que dans cet organe, il n'y a pas seulement les 28 ou 29 pays européens, mais il y a y compris des représentants d'autres pays satellites, comme par exemple de l'Azerbaïdjan. Oui. Il y a des députés azerbaïdjanais, azéris, non.
Oui, azerbaïdjanais.
Azerbaïdjanais, qui font partie de ce conseil.
Exactement. Et en fait, justement, ça a été créé au lendemain, avec l'URSS, pour que les républiques qui sortent de l'URSS, après l'URSS, trouvent le chemin de la démocratie. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ces anciennes républiques de l'URSS, justement, pour amener la paix aux portes de l'Europe. Hein. C'est vraiment pas loin de Paris. Hein. C'est vraiment des dictatures qui sont aux portes de l'Europe.
Alors, le rapport Strasser faisait mention de l'existence de prisonniers politiques en Azerbaïdjan. En janvier 2013, on est à Strasbourg, le Conseil de l'Europe devait statuer sur l'existence de ces prisonniers politiques. Le rapport a été rejeté, d'autant plus étonnant qu'il y avait des députés qui habituellement ne venaient jamais voter, il y a beaucoup d'absentéisme chez les députés européens, qui étaient ce jour-là présents comme par hasard, et vous montrez ce vote du Parlement du Conseil de l'Europe sous les applaudissements.
Le scrutin est ouvert sur le suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Alors le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le projet de résolution n'est pas adopté.
Et alors pour quelle raison mystérieuse ce vote a-t-il été rejeté? C'est justement ce que montre votre enquête.
Oui, et on a des images exclusives de ce vote. C'est terrible parce qu'on voit que au sein de l'organe qui doit faire respecter les droits de l'homme, on enterre un rapport qui dit qu'il y a des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Et là, c'est les valeurs européennes hein, qui sont touchées, qui sont atteintes. Et c'est grave pour nous, hein, ça nous concerne nous, parce que, encore une fois, ce sont des pays qui sont à nos portes et ça peut nous revenir à la figure, et c'est ce qu'on raconte dans ce documentaire. Et pourquoi? Alors pourquoi il a été enterré ce rapport? C'est ce qu'on découvre dans la deuxième partie.
Ah ben, c'est ce qu'on découvre également dans la deuxième partie de Culture Média. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez croisé d'anciens diplomates, mais également des journalistes comme Paul Radu, journaliste d'investigation roumain. Les journalistes font davantage avancer la cause que les parlementaires?
C'est terrible, parce que sans les journalistes, on ne l'aurait jamais su. Hein. C'est grâce à des journalistes et c'est grâce à des whistleblowers, c'est-à-dire l'ancien ambassadeur de l'Azerbaïdjan auprès de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, qu'on a su ça, parce qu'ils ont parlé. Mais les instances, elles le savaient. Ça savait au sein du Conseil de l'Europe qu'il y avait cette corruption, mais rien ne se passait tant qu'il n'y a pas eu de révélation.
Ça se savait, mais ça a été tu. Comment ça se savait et qu'est-ce qu'on a appris? Réponse dans la deuxième partie de cet entretien avec Benoît Bringer. Culture Média continue, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel. En compagnie de Benoît Bringer, il signe une enquête documentaire Caviar Connexion, c'est ce soir sur Arte, consacrée à la corruption organisée par certains pays au bord de la mer Caspienne, comme l'Azerbaïdjan, vers les institutions européennes. Vous avez rencontré un personnage qui vous raconte exactement la manière dont ça se passe ou dont ça se passait. Il était en première ligne, il s'appelle Arif Mamadov. C'est un ancien diplomate de haut rang, ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe entre 2000 et 2012. Et il est devenu lanceur d'alerte. Il raconte ce qu'il a vu de ses yeux vus.
Ce que j'ai vu et entendu était du lobbying sale. De l'argent donné en cash, secrètement dans les hôtels. Des montres, des smartphones. Notamment des smartphones Vertu, une marque de luxe. De nombreux politiciens. Des politiciens européens de haut niveau recevaient du cash chaque mois pour du sale boulot. Pour fermer les yeux sur des violations, sur de l'injustice. Sur ce contre quoi l'Europe se bat.
Dirty business, business pourri, on appelle ça la diplomatie du caviar, c'est le titre de votre doc, mais le véritable moyen pour corrompre les dirigeants européens, évidemment le caviar ça ne suffisait plus, c'était l'argent, il y a eu de la fraude, dites-vous, au sein même de l'organe européen des droits de l'homme.
C'est ça, le Conseil de l'Europe. Et c'est ce que révèle hein, cet ancien ambassadeur de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe. C'est un personnage de film. Hein. Vraiment, on n'en croise que dans les films, avec des destins incroyables, et qui un jour décide de parler. Et il dit, voilà, on avait 30 millions d'euros qui nous étaient remis par le pays, des fonds secrets, pour pouvoir corrompre des parlementaires européens, des parlementaires italiens, des parlementaires espagnols, des parlementaires allemands, des parlementaires français. Et donc, on leur remettait des valises de cash, on leur faisait des transferts d'argent pour qu'ils soient de notre côté, du côté des dictatures, du côté de l'Azerbaïdjan en l'occurrence, et pour enterrer notamment ces rapports qui gênent et qui pourraient empêcher de faire du business avec ce type de pays.
Vous montriez, et vous avez montré la tête de gondole, si j'ose dire, un certain Souleymanov, qui était à la fois membre du Parlement en Azerbaïdjan et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
C'est ça, c'est la particularité du Conseil de l'Europe, puisqu'il y a des représentants des parlements des différents pays. Et donc, on a cet homme qui est au centre vraiment du dispositif, qui est très proche du pouvoir azerbaïdjanais et qui va, il vient d'être condamné pour ça en Italie, distribuer de l'argent à ses parlementaires, notamment italiens en l'occurrence.
Il a été condamné en Italie, est-ce qu'il va purger sa peine? Quelle est sa peine? Alors, ou est-ce qu'il est en Azerbaïdjan et donc de ce fait intouchable?
Oui, il est en Azerbaïdjan et surtout il fait appel pour l'instant. Donc évidemment, il n'y a pas de condamnation définitive, mais lui et le parlementaire italien, ancien parlementaire italien qui a été corrompu, en tout cas il a été condamné pour ça, il fait aussi appel, Luca Volonté, ont été condamnés à des mois de prison et une amende.
Vous avez travaillé à Cache Investigation avec Élise Lucet.
Oui.
Il y a un côté Élise Lucet, parce que Luca Volonté, le député italien, l'ex-député italien, vous le retrouvez, vous essayez de le suivre, vous le coursez pour le faire parler, il ne veut pas parler.
Il ne veut pas parler, bon, c'est important quand même d'essayer de montrer qu'on va jusqu'au bout, qu'on va chercher les gens, qu'on leur propose la possibilité de répondre. Mmh. Et effectivement, alors je ne suis pas à l'image sur ce type de documentaire, vraiment l'idée c'est avec la force de la fiction, j'ai voulu que ça soit une enquête du réel avec la force de la fiction. Je ne suis pas à l'image, mais effectivement, on voit ça, on a les codes du cinéma, l'image du cinéma, et en même temps, on a les codes du journalisme d'investigation.
Voilà, et puis, une petite référence à Élise Lucet. Alors, c'est très complexe, évidemment, de détricoter tous les fils de cette pelote. Il y a des ramifications partout. Vous retrouvez, par exemple, la trace d'un email avec des coordonnées bancaires. Ce sont 4 sociétés britanniques qui avaient des comptes dans une filiale estonienne d'une banque danoise. Donc on voit que ce n'est pas gagné. En tout, 16 000 transactions financières, dont certaines viennent d'Azerbaïdjan. Vous retrouvez aussi un député allemand qui a reçu 1,1 million de dollars. Et là où on tombe de sa chaise, c'est qu'on se rend compte que ce député allemand, je donnais son nom, il s'appelle Edouard Lindner, avait effectué des missions en Azerbaïdjan. Ouais. Laquelle mission, vous vous souvenez?
Oui, tout à fait. En 2013, ils sont allés observer des élections pour voir si elles n'étaient pas frauduleuses.
Ils surveillaient les élections.
Exactement.
Ils trouvent que les élections
sont
étaient
formidables.
Du même niveau que ce qu'il y a en Allemagne.
Le même standard qu'en Allemagne, c'est exactement ce qu'il dit. C'est un ancien parlementaire allemand, il faut se rendre compte quand même. Et ce qui n'était pas le cas, puisque d'autres observateurs, notamment de l'OSCE, ont constaté, on a les images, il y a des bourrages d'urnes. Enfin,
ouais.
C'est complètement caricatural.
C'est complètement dingue. Ce qui est dingue, c'est pas qu'on bourre les urnes dans des pays comme ça. C'est arrivé partout dans le monde, c'est que l'Europe valide. C'est ça.
Exactement.
Qui est complètement fou.
Encore une fois, c'est nos valeurs. Ce sont des gens qu'on vote, on élit ces gens-là. Et donc, c'est extrêmement choquant. Et puis surtout, au final, ça a un impact sur les gens qui sont là-bas, qui souffrent tous les jours. Donc, c'est ce qu'on raconte avec ce documentaire, c'est que l'argent qui paye ces politiciens, c'est Edouard Lindner et d'autres qui ont touché de l'argent pour aller valider, tamponner ces élections, ça a un impact. Ça a un impact sur les gens qui vivent là-bas, qui souffrent là-bas. Et l'histoire de Raja Ismailova est terrible pour ça.
Alors en Europe, il y a aussi le cas de Karin Strenz, c'est une Allemande, elle fait partie du même parti qu'Angela Merkel. Et vous dénoncez également le cas de parlementaire belge. En France, vous ciblez également Rachida Dati. Que lui reprochez-vous?
Alors Rachida Dati, elle a accueilli beaucoup d'événements dans sa mairie du 7e arrondissement sur l'Azerbaïdjan. Elle est très proche de la première dame azerbaïdjanaise. Et donc, elle organise des expositions, des choses qui vont montrer la culture de l'Azerbaïdjan et aussi...
Mais là, en l'occurrence, c'est complètement différent. Là, à moins que je me trompe, rien n'est illégal.
Rien n'est illégal. Le problème, c'est la contrepartie. Est-ce qu'il y a eu contrepartie? Et ce qu'on sait, c'est que Rachida Dati se rend souvent en Azerbaïdjan, s'est souvent rendu en Azerbaïdjan, et notamment a été invité par qui? Par Elkan Souleymanov, celui dont on parlait tout à l'heure, qui a organisé ce réseau de corruption en Europe. On n'a pas de preuves sur Rachida Dati, il faut le dire, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été invitée, donc elle a voyagé en business pour aller à Bakou, elle a été invitée dans de grands hôtels, tout frais payé, elle s'est rendue à des courses de F1, elle a été invitée notamment au moment des Jeux Olympiques européens qui étaient là-bas, elle s'y est rendue aussi. Donc la question, c'est est-ce que...
Juste un mot, je ne suis pas là pour défendre Rachida Dati, mais quand vous dites on n'a pas de preuves, vous sous-tendez qu'elle est coupable.
Non, je dis, on n'a pas
de preuve. C'est le mot preuve. Oui. C'est presque un mot à charge.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun élément matériel qui dit qu'elle aurait touché de l'argent. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire là. Hein. En revanche, les éléments matériels, ils sont au Parlement européen, c'est qu'elle s'est rendue. Elle s'est rendue à Bakou invitée. Et la question que ça pose, c'est surtout la question de est-ce qu'on peut continuer à avoir des parlementaires européens qui se rendent dans ces pays-là, qui sont invités, donc tout frais payés, sans que ça pose de problème démocratique. Est-ce qu'on doit... Aujourd'hui, la seule chose qu'on doit faire au Parlement européen, c'est le déclarer. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Et je pense que c'est important pour justement éviter tout soupçon.
Alors, il y a eu du nouveau, puisque finalement, le rapport Strasser a été adopté. Quel bilan, désormais, pour l'Azerbaïdjan au niveau du Parlement européen ? Que s'est-il passé dans le pays et au niveau du Parlement ?
Alors, dans le pays, malheureusement, en tout cas, la situation n'a pas changé pour les habitants.
Il y a eu 38 détenus politiques qui ont été relâchés.
Voilà, il y a eu 14 membres du Conseil de l'Europe qui ont été exclus à vie. Et il y a également 38 prisonniers politiques qui ont été relâchés, mais il en reste beaucoup. Donc, Ilham Aliyev, le pouvoir est toujours en place. On est à un moment où ces militants, ces journalistes continuent de se battre pour plus de liberté. Et on n'y est pas encore.
Merci beaucoup, Benoît Bringer. Je rappelle ce documentaire Caviar Connexion en deux parties, Le pouvoir de l'argent et puis La machine à corrompre. C'est ce soir sur Arte à partir de 21h et quand on veut sur arte.tv. Dans un instant, notre info média du jour, nous intéresserons à une enquête édifiante. De plus en plus de journalistes décident de changer de métier. Ils étaient pas moins de 892 en 2020, l'an passé, à quitter la profession. Pour quelles raisons ? Réponse avec le sociologue Jean-Marie Charon qui co-signe l'enquête Hier journaliste en librairie cette semaine. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est un métier on ne peut plus prestigieux, que l'on dit de passion. 14 écoles françaises sont aujourd'hui reconnues par l'État et forment à ce rêve d'informer. Et pourtant, depuis plus de 10 ans, le nombre de journalistes, car c'est de ça dont il s'agit, ne cesse de baisser. Ils étaient plus de 37 000 en 2009, ils ne sont que 33 000 aujourd'hui. La pandémie n'a pas arrangé la situation. Entre les situations précaires, le rythme difficile et la violence psychologique, rien que l'an passé en 2020, 892 journalistes ont décidé de fermer la porte à ce métier qu'ils avaient pourtant choisi. Qui sont ces journalistes qui jette l'éponge? Comment expliquer cette perte d'effectifs, voire de sens? Et pourquoi cette profession est-elle moins attractive? Élément de réponse avec Jean-Marie Charon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et co-auteur avec Adenora Pijola de Hier Journaliste. Ils ont quitté la profession. C'est publié chez Entremise Éditions, ouvrage qui sort cette semaine en librairie. Alors, vous avez mené une enquête auprès de 55 personnes, journalistes qui ont décidé de quitter il y a peu la profession. Pourquoi cette enquête? Qu'est-ce qui vous a alerté, Jean-Marie Charon?
Alors, deux choses. D'abord, il y a en 2016, une enquête qui avait été faite sur la profession et qui révélait que la moyenne de durée de la profession était devenue de 15 ans. Donc, ça nous avait déjà un peu alertés. Et puis, si vous voulez, il y a eu cette période du Covid et du confinement où on a vu que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, beaucoup disaient « ben voilà, je m'interroge » ou « je suis déjà parti ». Donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit... Il se passe quelque chose. On savait que le départ de la profession, c'était quelque chose qui avait toujours existé, mais ça pouvait arriver plus tard, puis ça ne concernait pas tout le monde, etc., évidemment. Là, on a dit à ces personnes, est-ce que vous êtes prêts à en parler ? Nous expliquer pourquoi ? Et donc, on est parti, sans chercher, on a eu pratiquement une soixantaine de personnes qui nous ont dit, OK, on y va. Donc là-dedans, on a sélectionné, enfin parmi elles, on a pris ceux qui étaient plutôt dans les 5 dernières années ou en train de le faire. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un phénomène tout à fait intéressant, notamment parce qu'on avait beaucoup de jeunes. Si vous voulez, ça, c'est ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est qu'on a presque la moitié de ces personnes qui ont moins de 35 ans.
Ils partent parce qu'ils ont décidé de partir ou ils partent parce qu'il y a moins de travail, comme si un livreur de charbon décidait d'arrêter le métier au milieu du siècle dernier.
Alors, si on prend le cas des jeunes, si vous voulez, il y a un peu deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est effectivement, comme vous l'évoquiez, les problèmes de précarité. C'est-à-dire, c'est difficile d'entrer. Même s'ils ont une très bonne formation, ils ont tous une très bonne formation, hein, j'insiste, c'est pas du tout des marginaux de la profession. Les CDD s'enchaînent, l'épige, ce qu'on appelle l'épige, hein, le travail où on est...
Une pige, c'est quand on peut écrire pour Marie-Claire, pour l'Équipe magazine, pour Le Parisien et pour Le Monde. C'est ça, les piges. Ouais, on est payé à l'article publié.
Voilà, sans être fixe quelque part. Et donc, quand les choses s'enchaînent comme ça et qu'on ne voit pas de perspective, alors certains dans les piges même nous disent « j'étais arrivé à des niveaux de rémunération extrêmement bas ». En tout cas, sans rapport avec du bac plus 5, bac plus 6, souvent de la forme. Et puis, tout simplement, on ne pouvait pas en vivre. Donc ça, c'est la première configuration. Donc les gens s'en vont. Ils s'en vont, entre parenthèses, d'autant plus facilement qu'ils sont bien formés. Donc, à un moment donné, ils se disent, avec un bagage comme celui-là, je dois pouvoir faire autre chose. Donc, et effectivement, il y a des voies qui s'ouvrent. Les autres, d'autres configurations, c'est des gens qui savent qu'ils allaient devoir travailler sur le web, ce qu'on appelle l'Internet, mais plutôt sur ce qu'on appelle des desks, c'est-à-dire faisant de l'information de flux.
On va dire, dans un bureau, sur un clavier.
Voilà.
Et pas sur le terrain avec un magnétophone.
Tout à fait. Et en plus, sur un clavier, surtout pour retravailler à partir de dépêches d'agence. Ce qu'ils appellent du copier-coller. Donc, ils savaient que ça allait de ça, hein, parce qu'on n'idéalise pas trop la profession dans les écoles aujourd'hui, mais au bout de 5-6 ans, si on n'a pas de perspective, eh bien effectivement, on commence à chercher ailleurs. Donc ça, c'est la première configuration de ceux qu'on a vus partir. Voilà.
Et bien, alors, vous parlez de genre, mais on peut faire une distinction dans le genre, au niveau du genre. Il y a une distinction entre les hommes et les femmes.
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup plus de femmes parmi celles qui s'en vont. Et ce qui va être frappant, c'est que ces femmes, on va les retrouver dans la deuxième catégorie de partants que j'appelle les quarantenaires. C'est-à-dire effectivement des gens qui sont entrés bien dans la profession, sont en pleine, possession de leurs moyens, sont en pleine activité, mais malgré cela, ils vont rencontrer un certain nombre de difficultés. Et effectivement, parmi ceux-là, ce sont surtout des femmes. Alors les difficultés, ça peut être des problèmes d'arbitrage entre la vie personnelle et la vie de travail, hein, avoir des enfants, pouvoir les élever, vie de famille, etc. Mais c'est aussi beaucoup des problèmes d'intensification du travail. Et là encore, aussi, parfois, le sentiment qu'on va, on va avoir beaucoup trop d'emplois qui sont des emplois dits assis. C'est-à-dire, là encore, tout le monde ne part pas. Donc, ceux qui partent vont être surtout ceux qui sont confrontés à cela. Et puis, ce qui est frappant chez les femmes aussi, on en parle souvent, c'est le sentiment d'une certaine discrimination. Et discrimination en quoi ? Eh bien, déjà en évolution de carrière, en niveau de salaire. 15% de décalage quand même, avec des niveaux complètement équivalents. Et puis, on retrouve des choses qu'on évoque souvent, mais... Et là, très concrètement, ce qu'on appelle le harcèlement, ce qu'on appelle la violence dans le travail, y compris du harcèlement sexuel. Et certaines vont craquer et on va trouver ce qu'on appelle les phénomènes d'épuisement professionnel, qu'on appelle aussi burn-out. Quoi.
D'une manière générale, dans quelle mesure le confinement et la crise du Covid ont stoppé des vocations ?
Alors, finalement, c'était un petit peu... Ça faisait partie de nos questions, effectivement. Est-ce que cette période du confinement avait été particulièrement favorable à ces départs ? Si on regarde les statistiques, d'ailleurs, que vous évoquiez tout à l'heure, on s'aperçoit que cette année, donc en 2020, puisque les statistiques ont toujours une année de décalage, il n'y a pas eu vraiment des départs massifs. Notamment ce qu'on appelle les renouvellements de cartes de presse sont à peu près équivalents. En fait, on a vu effectivement deux cas de figure. Ceux qu'on a évoqués au tout début dans notre conversation, les précaires, parce que donc pigistes, CDD, parce que là, on leur a dit le CDD s'arrête parce qu'il n'y a plus de travail, ou les piges, il n'y en a plus. Donc ceux-là, ils se disent, on ne pouvait plus vivre, on arrête. Et puis, il y a ceux qui se disent, on avait moins de travail, du coup, on s'est mis à réfléchir davantage sur notre métier et on s'est rendu compte qu'il y a un problème de sens.
Justement, on va parler du sens. Je disais autrefois, le métier de journaliste faisait rêver. Maintenant, c'est l'une des professions les plus décriées. Vous avez remarqué un lien entre la défiance des populations envers les journalistes et cette volonté d'arrêter le métier. Je pense notamment aux gilets jaunes qui conspuaient la presse, aux anti-vax qui ont parfois été très virulents, voire violents.
Alors effectivement, il y a un lien au sens où, si vous voulez, les personnes qui nous répondent, c'est ça qui nous a beaucoup frappé. Au début, ils ne nous disent pas précarité, ils ne nous disent pas conditions de travail, ils nous disent perte de sens, ils nous disent l'impression qu'on ne sert plus la société, qu'on ne joue plus un rôle important dans la société. Et puis, il y a effectivement... Il y a effectivement l'impression, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, vous évoquiez les gilets jaunes, voire ce qu'on appelle aussi les sources, les interlocuteurs que l'on a, qui vont avoir un traitement désagréable à l'égard de ces journalistes. Et puis alors, parce qu'on évoque souvent le burn-out c'est quoi ? C'est d'un côté trop de travail, mais de l'autre côté la non-reconnaissance et la dévalorisation. Et dans cette dévalorisation, c'est ce qui nous a beaucoup frappé, eh bien, il y a effectivement ce sentiment qu'on est devenu une profession mal aimée et on est au jour le jour confronté à, cette impression d'être rejeté sur les réseaux sociaux. Et tous les journalistes aujourd'hui pratiquement sont sur les réseaux sociaux. C'est souvent quotidiennement qu'on va se heurter à des propos désagréables, voire des insultes et des injures.
Vous parlez justement des blessés, de la mutation des médias, c'est de manière économique. Où vont ensuite tous ces journalistes ou anciens journalistes vers quelle profession se tournent-ils, elles ?
Oui, alors c'est vrai qu'on avait un peu une image d'Épinal qui était de se dire, ah ben c'est quand les journalistes s'arrêtent, ils vont vers la communication, c'est-à-dire des métiers, de relations, et souvent en profitant, on va dire, en s'appuyant sur les personnes qu'ils connaissaient précédemment, les entreprises avec lesquelles ils travaillaient, ou les collectivités territoriales. C'est toujours effectivement une voie de possible de sortie. Mais ce qui nous a surtout frappé, c'est que la principale de ces voies, en tout cas dans notre groupe, hein, on n'est jamais qu'un groupe de 55, c'est pas statistique, mais c'est l'enseignement. Et pourquoi l'enseignement ? Je pense que ça
D'abord,
tient...
il y a une équivalence des diplômes.
Voilà, on va avoir une beaucoup plus grande facilité à basculer et à passer ou des concours, des CAPES et des choses comme ça, ou à se retrouver même dans des postes d'enseignement sans ces concours. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé. Et puis, il y a des métiers qu'on pourrait qualifier de périphériques. Les journalistes, aujourd'hui, souvent, pour travailler, ils sont obligés de travailler beaucoup en informatique, en numérique, ou de faire un peu ce qu'on appelle du marketing, se préoccuper beaucoup de leur public, comment le public réagit. Et donc, on a un certain nombre vont aller vers ces métiers-là. Et puis, il y a des métiers... C'est un métier créatif, des métiers de créativité, y compris artistique.
Merci beaucoup Jean-Marie Charron. Je rappelle que vous êtes sociologue, co-auteur avec Adenora Pigelat de ce livre « Hier, journalistes, ils ont quitté la profession ». C'est publié chez Entremise Éditions. Merci de votre éclairage. Merci d'avoir été là en direct dans ce studio. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h avec une journaliste, évidemment. Notre invité, ce sera le romancier et réalisateur Marc Duguin pour son film Eugénie Grandet, adapté de Balzac. Et puis dans les indispensables, Guillaume Benesch nous emmène dans un monde fantastique à la découverte d'un nouveau roman jeunesse. Et Margot Barallon nous parle de la nouvelle série de science-fiction inspirée de l'œuvre d'Asimov, ça s'appelle Fondation. L'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray, en fin d'émission évidemment, à tout de suite sur Europe 1.